foi et turbulence.
Bonjour à vous tous qui nous écoutez, Catherine Aubin avec vous pour la prochaine heure. Très heureuse de vous retrouver pour cette édition de Foi et Turbulence en formule grande entrevue. Et voici pour commencer les mots de notre invité. Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. C'est un proverbe amérindien. Vous aurez compris que cette semaine, nous parlerons de la santé du corps et de celle de l'âme ou du cœur. Et nous le ferons en compagnie de Christine Angelard, naturopathe à Montréal, docteur en médecine à la faculté de Toulouse en 1985. Christine Angelard a obtenu ensuite les diplômes post-universitaires en homéopathie et naturopathie et en médecine traditionnelle chinoise. Et elle continue aujourd'hui de suivre ses patients au Québec, à Montréal et dans d'autres villes en tant que naturopathe et thérapeute en santé globale. Comment passe-t-on de la médecine à la naturopathie? Quels outils pour sortir de l'enfermement psychique? Colère, tristesse, peur, anxiété réduisent-ils notre santé physique? Comment? Ce sont quelques questions que nous nous poserons dans la prochaine heure. Merci d'être à l'écoute et bonne émission. Christine Angelard, bonjour.
Bonjour, sœur Catherine Aubin. Merci de m'accueillir. Je suis très heureuse et très honorée d'être à votre émission aujourd'hui.
Merci Christine. Afin de bien cerner ce dont il va être question au fil de cette émission, est-ce que vous pourriez nous dire, tout simplement, comment vous êtes passée, en quelque sorte, de la médecine traditionnelle à la naturopathie?
Oui, c'est une longue histoire, mais je vais faire court. C'est une longue histoire qui s'est réalisée rapidement. En fait, on élargit sa vision, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on reste avant tout un thérapeute. Dans mes premiers cours, quand je suis allée m'inscrire en médecine traditionnelle chinoise, au début, c'est la curiosité. Peut-être la première chose, c'est la curiosité qui m'a permis d'élargir ma vision. La phrase de Lao Tzu que l'on m'a apprise dès mes premiers cours de médecine chinoise, qui dit que le but du médecin n'est pas de guérir à tout prix, mais de rétablir le qi afin que la vie ou la mort du sujet soit atteinte en son temps et en son heure. Ça, c'est une phrase qui m'a fait un électrochoc.
Ensuite, est-ce que vous pourriez la répéter, Christine? Rétablir le
chi. Oui, je parle trop vite, moi. Le but du médecin,
oui,
n'est pas de guérir à tout prix.
Oui.
Alors que nous, lorsque nous sortons de la fac, nous voulons guérir tout le monde. Le but du médecin n'est pas de guérir à tout prix, mais de rétablir le chi, c'est-à-dire l'énergie, le chi, afin que la vie ou la mort du sujet soit atteinte en son temps et en son heure.
D'accord.
Donc ça replace déjà, je dirais, le médecin, le thérapeute à sa place. Donc j'ai eu des professeurs de médecine déjà qui étaient des professeurs de médecine qui travaillaient en conscience, comme il y en a encore actuellement, il y en a toujours eu et il y en aura encore, j'espère. Donc j'ai eu des professeurs qui m'ont ouvert cette conscience dans le travail. J'ai eu cette définition de Lao Tzu, Philon d'Alexandrie. Dans le même temps, je lisais des choses sur Philon d'Alexandrie qui disait qu'être un thérapeute, c'est prendre soin de l'être. Donc ce parcours m'a amené à me voir plutôt comme une thérapeute en santé globale avec différentes cordes à mon arc. Mais on est thérapeute, j'allais dire dans l'âme, en tout cas on est sur un chemin de thérapeute. Mon doctorat en médecine, je suis très fière, très contente de l'avoir eu, il m'a servi, j'ai exercé comme médecin en France. Et puis j'ai commencé à sortir des cadres très tôt, à une époque où ça ne se faisait pas, parce que j'ai commencé à prendre mes patients pendant une heure et à essayer de travailler en globalité. Donc la curiosité, mes premiers cours de médecine chinoise, mes lectures, la spiritualité, des patients m'ont amené aussi à prendre conscience de la réelle place du thérapeute qui est d'accompagner. Or, en Occident, souvent les médecins et les thérapeutes se prennent pour des dieux.
Est-ce que vous pourriez, Christine Angelard, nous dire ce que vous mettez derrière le mot thérapeute ?
Mais c'est ça, c'est prendre soin de l'être.
Et justement, quand vous dites que vous êtes thérapeute et que vous vous situez comme thérapeute, pouvez-vous nous dire quelle conception de l'homme, au sens très large, homme et femme, ça la sous-tend ?
C'est ça, c'est, ça sous-tend un être et pas uniquement une juxtaposition d'organes. C'est-à-dire c'est un homme qui a un corps physique dont il doit prendre soin et qui est soumis à des contingences climatiques, alimentaires et autres. Et il vit des émotions. Et il est animé d'un souffle, il est animé d'une spiritualité, il est animé de quelque chose de plus grand en lui que lui. Voilà, donc un thérapeute, c'est quelqu'un qui va en tout cas prendre en considération l'être et pas uniquement la juxtaposition d'organes, comme je dis de façon un peu cavalière. Hein. Voilà, c'est, et donc il y a des médecins qui sont thérapeutes, il y a des amis qui sont des thérapeutes, il y a des prêtres, des religieux qui sont des thérapeutes. Il y a toute une conception d'une personne verticale et pas segmentée en appareil digestif, cardiovasculaire, lymphatique et autres, vous voyez.
Est-ce qu'on peut dire, en caricaturant, que finalement, cette façon que vous avez d'envisager l'être humain et peut-être le monde entier est une autre façon, et ça est un peu en contradiction, pourrait-on dire, avec le fait que peut-être on est un peu considéré comme des objets de consommation ?
Ah, c'est clair que oui, je m'oppose, je suis en totale contradiction avec cette vision. Vous avez raison, il y a une certaine forme de modernité qui pousse les personnes à se considérer comme des objets de consommation ou à être dans la consommation permanente. Un thérapeute, c'est pas ça. Un médecin, c'est pas ça. Oui, ça, je suis en contradiction avec l'objet de consommation. Oui, c'est clair.
Et vous avez toujours été comme ça, Christine Angelard. Dès que vous avez commencé ces études de médecine, puis de médecine chinoise, vous avez toujours eu cette volonté, cette curiosité d'aller plus loin dans l'être.
Et déjà, ce que j'ai toujours eu, c'est la curiosité. Hein. On m'a beaucoup grondée quand j'étais petite fille pour cette curiosité, qui était une curiosité d'apprendre. J'avais envie d'apprendre. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte qui est fermée ? Pourquoi cette porte est toujours fermée ? Puis qu'est-ce qu'on dit ? Bon, oui, la curiosité, ben, c'est mes professeurs. Hein. Je suis un pur produit de l'école laïque française à une certaine époque. Et donc, mes professeurs m'ont développé cette curiosité, mais je l'avais toute petite. Ensuite, j'ai eu effectivement ce qu'on appelle des maîtres en médecine, c'est-à-dire deux, trois grands patrons qui avaient cette curiosité. Et cette écoute, la curiosité, ça va avec l'écoute aussi. Un de mes patrons, dont je parle dans un de mes livres, Jean-Michel Pugeot, qui me disait, Christine, c'est un néphrologue, hein, c'était pas un homéopathe, c'était pas un psychologue, qui nous disait, et là il s'adressait à moi, Christine, tu t'assois au lit du patient et tu écoutes ce qu'il va te dire. Même si tu as l'impression de perdre ton temps et qu'il te raconte des trucs qui sont sans queue ni tête, soi-disant, écoute ce qu'il te dit, parce que dans la façon dont il va te parler, dans ce qu'il te dit, tu vas avoir des clés. Bien sûr qu'il faut avoir, alors là je parle en tant que, quand j'étais médecin, là, bien sûr qu'il faut avoir ses connaissances professionnelles, c'est évident. Et à côté, il y a cette curiosité. Donc oui, j'ai toujours cette curiosité, ça c'est un truc qui m'a, au début c'était un défaut, j'ai essayé d'en faire une qualité, mais c'est pour ça que je me suis inscrite à ces formations post-doctorales en France, parce que mon doctorat en poche, j'avais commencé comme généraliste et j'étais partie pour faire ça jusqu'à la fin de mes jours. Et puis, par curiosité, je suis allée voir qu'est-ce que c'était que cette fameuse médecine chinoise. C'est bizarre quand même qu'ils arrivent à opérer des gens juste en les anesthésiant avec 3-4 aiguilles. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la planète, quoi. Donc c'est vraiment la curiosité au départ et j'ai eu la chance de faire de belles rencontres.
Et alors, qu'est-ce qui vous a fasciné dans cette médecine chinoise ? Là, vous avez cité tout à l'heure cette très très belle citation en parlant de l'énergie. Qu'est-ce qui se passe quand vous prenez conscience qu'il y a comme une autre face qui va s'ouvrir à vous ?
Ah ben c'est un électrochoc, ça je me revois, c'est un souvenir très précis, je me revois sur les bancs à Paris, sur les bancs de la fac et d'entendre le prof d'acupuncture nous citer cette phrase, le but du médecin n'est pas de guérir à tout prix. Vous savez quand vous êtes jeune médecin, que vous avez fait des remplacements à la campagne, en ville et que vous donnez à fond, mais on le sait, enfin, c'est malheureusement toujours d'actualité, à fond pour sauver votre patient, puis là vous entendez le but du médecin n'est pas de guérir le patient à tout prix mais de rétablir le chi afin que la vie ou la mort du sujet, etc. Donc ça a été un électrochoc. Et là, au Québec, on dit ça a dégonflé ma balloune. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que je ne savais pas tout. Parce que bien sûr, à 25, 27, 28 ans, quand on sort avec son diplôme, on sait tout. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un pan de la santé et même de la vie que je ne connaissais absolument pas. Donc ça m'a donné le goût d'aller voir, et puis ça m'a donné aussi l'occasion de passer pas mal d'années encore à étudier, mais c'est voilà. Donc ça a été cette... Et puis en même temps, ça a été à l'électrochoc, et ensuite, ce que ça a fait, c'est que... Il y a une petite voix en moi qui m'a dit, c'est juste. C'est-à-dire que de considérer le... On le fait, vous savez, moi, c'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, évidemment que c'est pas nouveau. Ça fait des millénaires que ça existe. Les vieux médecins de campagne le faisaient. Ils connaissaient le terrain des patients. Ça s'appelle le terrain dans notre jargon occidental. On connaissait l'histoire des patients. On connaissait les problèmes familiaux. On connaissait leurs problématiques. Maintenant, malheureusement, on n'a plus le temps. Enfin, en tout cas, on ne prend plus le temps. Donc ça, à la fois, ça m'a fait un électrochoc et ça m'a poussé dans le dos vraiment en me disant mais oui, c'est juste parce que tu peux pas traiter un ulcère d'estomac sans poser des questions à la personne sur la façon sur ce qu'elle vit comme stress, ça, c'est évident. Ou la personne qui est épuisée, elle est épuisée physiquement, mais qu'est-ce qui se passe derrière aussi? Enfin, donc voilà, ça m'a orientée. Voilà, j'étais précisée sur une rampe de lancement.
Et est-ce que c'est déjà à ce moment-là une ouverture spirituelle pour vous
qui va... Oui. Oui. Ben, j'ai jamais été fâchée. J'ai eu la chance et la grâce d'être élevée dans un milieu catholique, bienveillant, avec des prêtres totalement bienveillants. Donc je n'étais pas opposée, je n'étais pas en colère contre cette forme de spiritualité. Et donc j'avais une spiritualité, on va dire, gentillette. C'est plus tard, quand il s'est passé quelque chose, justement un décès, que ça m'a véritablement ouvert encore à un autre niveau. Mais mon cheminement spirituel à l'époque était, je dirais, un petit peu ronron et douillet, sans trop me poser de questions. J'adhérais à une foi. Mais bon, bah, j'étais jeune, hein, donc voilà, j'étais pas en opposition, mais j'étais pas dans une grande recherche, voilà.
Alors, on revient à cette...
C'était en eau tiède, un petit peu.
Ok, on revient à cette période-là, et dans cette période où vous passez à la naturopathie. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition de la naturopathie et de ses conséquences sur notre santé physique et spirituelle?
Oui, alors je suis passée, je vais reprendre un tout petit peu, parce qu'en fait, je suis passée de la médecine générale à la santé globale. Et dans ma santé globale, j'incluais donc l'homéopathie, la naturopathie et la médecine chinoise.
D'accord.
Et donc c'est là où je prenais mes patients pendant une heure, etc. en France. Mmh. Et j'étais sortie des cadres, parce que là, je fitais plus, comme on dit, je ne correspondais plus à un cadre particulier, donc j'étais un thérapeute en santé globale, plus du tout remboursé par le système de santé français à l'époque. Bon. Et puis j'arrive au Québec, et au Québec, mon diplôme en médecine, c'était très compliqué en tout cas de le faire reconnaître. Donc je me suis inscrite dans le cadre de la naturopathie. Donc j'utilise la naturopathie, mais j'utilise aussi la médecine chinoise.
D'accord.
Voilà, donc c'est pour, et cette vision globale. Mais par contre, je ne travaille pas comme médecin au Québec, ça c'est clair.
Mm-hmm.
Donc la naturopathie, on dit que c'est l'art, il y a une définition qui est assez belle, qui dit que c'est l'art et la science visant à promouvoir un niveau de santé optimal par le recours à des moyens naturels et écologiques.
D'accord.
Donc le naturopathe, c'est celui justement qui va considérer le sujet dans sa globalité et qui va utiliser des moyens naturels pour rétablir ce qu'on appelle l'homéostasie du corps, et c'est-à-dire un équilibre. Et la naturopathie, comme la médecine traditionnelle chinoise, sont aussi des thérapies complémentaires, mais sont des thérapies de prévention et d'accompagnement.
Mmh.
Et ne sont absolument pas en opposition, évidemment, avec la médecine classique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire aussi, parce que pendant des années, il y a eu cette guéguerre entre les médecines complémentaires et les médecines classiques. Et malheureusement, des deux côtés, il y a des gens qui sont très, très bornés et à cheval sur leur position. Et le monde ira mieux quand il y aura une libre circulation entre les deux.
Oui.
Voilà.
Alors, pour continuer, Christine Angelard, et je voudrais vous demander, vous avez déjà insisté sur cet aspect, mais je voudrais quand même continuer parce que pour nos auditeurs, pour qu'ils rentrent un peu plus davantage dans cette conception, votre axe est de prendre en compte, vous l'avez dit, la globalité du patient, son corps physique, ses émotions, son âme. En quoi est-ce nécessaire de considérer le patient dans ces trois dimensions?
Je dirais c'est indispensable, c'est une évidence, parce qu'on est constitué de ces trois composantes. On l'a oublié avec le développement de la technique et des progrès de la médecine qui ont permis justement d'aller toujours plus loin, toujours plus précis au niveau de la cellule, du noyau, etc. Mais en fait, je m'inscris dans une lignée qui est ancienne, hein, donc on n'a rien inventé. Pourquoi c'est important? Parce qu'on ne peut pas découper l'individu en trois morceaux. On l'a fait, c'est-à-dire que le médecin généraliste s'occupait du corps, le psychiatre des émotions, le prêtre ou le rabbin ou l'imam ou le guide spirituel de la spiritualité. Alors je me prends ni pour un rabbin, ni pour un imam, ni pour un prêtre, mais quand je dis prendre en considération les émotions et l'âme, c'est-à-dire que c'est aussi ramener le patient dans ce cheminement-là. C'est-à-dire la personne vient parce qu'elle a des inconforts digestifs, bien évidemment, la première chose que je vais faire, c'est que je vais m'occuper je vais lui poser des questions sur la façon dont il mange, dans ses antécédents, ce qui lui est arrivé dans sa vie médicale, etc. On va s'occuper du physique. Mais pareil, on va aller poser des questions au niveau émotionnel, parce que c'est l'émotionnel qui va sous-tendre tout ça. Et puis il y a un moment dans la consultation où j'ai cette question, en général, où je demande aux gens, est-ce que vous avez une spiritualité vivante ? J'ouvre une fenêtre qui malheureusement trop souvent est oubliée, qui est la fenêtre de la dimension spirituelle chez l'humain. C'est pas moi qui vais le guider spirituellement, j'ai pas du tout cette prétention ni ces compétences, mais d'ouvrir une avenue au patient en lui disant alors peut-être pas pour un inconfort digestif, mais en tout cas pour des pathologies plus lourdes. Quand j'accompagne des patients qui ont des pathologies lourdes à côté et qui ont besoin de compléments naturels pour supporter les effets secondaires des médications lourdes, c'est clair que là, il y a une dimension spirituelle, il y a un questionnement spirituel qui vient. Donc pour moi, je peux pas considérer l'humain, puis je suis pas la seule, je veux dire, on est plusieurs à faire ça. C'est une évidence et c'est quelque chose que l'on doit re-enseigner aux patients.
Quand je vous entends, Christine Angelard, et quand vous dites, est-ce que vous, à vos patients, vous posez cette question, est-ce que vous avez une spiritualité vivante? L'image qui m'est venue, c'est comme si vous demandiez, est-ce que il y a des mouvements intérieur de vie qui vous anime.
Oui, tout à fait, tout à fait. J'essaie de les rebrancher un petit peu par cette. Et ce questionnement, ça fait, mon Dieu, ça fait je sais plus combien d'années que je pose cette question. Elle a toujours été bien accueillie et j'ai toujours eu des réponses intéressantes et étonnées. Et oui, ça fait bouger quelque chose à l'intérieur du patient. Et oui, est-ce qu'il y a quelque chose de vivant à l'intérieur de vous? Évidemment qu'il y a quelque chose de vivant à l'intérieur de vous, mais ça m'amène à aller un peu plus loin, c'est-à-dire à considérer aussi le patient ou le sujet qui vient donc avec une problématique particulière. Ok, on va s'occuper de cette problématique avec mes outils, mais il y en a d'autres, hein, vous pouvez être accompagné par d'autres personnes. Et à côté, on va aussi voir que vous n'êtes pas que cette problématique. Ça, c'est vraiment d'agrandir le regard. Voilà. C'est, en fait, je vous dis, c'est on agrandit le regard, on élargit sa vision, on prend de la hauteur.
Oui, oui.
Et les gens, et on en a tous besoin. On en a tous besoin. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui ont été véritablement des initiateurs, qui m'ont montré, qui m'ont. Parce que je l'ai vécu en médecine classique. Oui. Je l'ai vécu avec des médecins généralistes, avec mon patron néphrologue, cette vision-là. Ça n'est pas l'apanage de la naturopathie, ça n'est pas l'apanage de la médecine chinoise, c'est l'apanage justement du thérapeute.
Ce que j'entends dans votre voix, Christine Angelard, parce que peut-être que les auditeurs ne le savent pas, mais vous n'êtes pas en face de moi, vous êtes au téléphone, j'entends aussi à travers votre voix, non, pas une, la voix de, d'une scientifique, même si, et j'insiste, vous avez votre, votre doctorat en médecine
et
en
baccalauréat scientifique.
Voilà, c'est ça, oui. Mais je voudrais terminer cette première partie de notre entretien en vous posant justement cette question. Qui est le titre de l'un de vos nombreux ouvrages ? Si la médecine soigne, en quoi ou comment l'amour guérit-il ?
Voilà. Alors l'amour, justement, c'est un mot qui a tellement été galvaudé. Mais on parle de l'amour, l'amour initial, l'amour premier. C'est, ça va nous permettre de retrouver une dimension verticale. Nous sommes une âme incarnée. Et on a bien souvent oublié cette âme. Qu'est-ce qui me nourrit, à part le quinoa, les jus verts et l'exercice physique? où j'en suis dans ma dimension verticale? Cette dimension verticale, on l'a totalement oubliée. Alors qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle l'univers, moi ça m'est égal. Hein, voilà. C'est cette notion de cœur empereur dont parle la médecine chinoise, ce fameux cœur empereur qui est le reflet de l'énergie spirituelle en nous. Être à cette dimension spirituelle. Donc, quand j'ouvre mon cœur, ce qui va se passer, c'est que je me relie à la joie, et c'est l'énergie du cœur qui va pouvoir véritablement monter le niveau de fréquence du corps, si on veut parler physique, et faire des petits ou des grands miracles. Me relier à mon cœur, c'est me relier à ma joie première, à ma joie initiale, c'est l'occasion de délier des nœuds, de pardonner, de se pardonner, de pardonner ce qu'on a vécu. C'est une déliance, enfin c'est pas un mot français ça, mais on délie quelque chose, hein. C'est une libération.
Une délivrance.
Une délivrance. Alors je dis pas que ce soit facile, mais cette énergie du cœur va nous permettre d'alléger quelque chose, va nous permettre d'alléger notre part d'ombre. On a tous une part d'ombre en nous, ça c'est clair, hein, c'est, voilà. Et quand c'est l'énergie du cœur qui est première, il y a un peu plus de lumière sur mon ombre. Donc l'amour, c'est Christian de Saint-Gère qui avait cette phrase magnifique, qui disait c'est la substance même de l'univers. Voilà, c'est pas un sentiment quand on parle, parce que le problème du mot amour, c'est qu'on aime la tarte aux fraises, on aime sa grand-mère et on aime Dieu, donc c'est un peu embêtant le mot. C'est plus qu'amour, je dirais, c'est peut-être la joie. Voilà, c'est cette joie qui n'est pas dépendante de quelque chose d'extérieur. C'est une joie intime dont on a tous un petit éclat. Et c'est ce petit éclat qui va permettre de faire tomber les barrages. Voilà.
Christine Angelard, on poursuit cette discussion autour de la santé physique et spirituelle après une courte pause musicale où nous allons entendre maintenant les moines bénédictins de Cœur Moussa avec un morceau qui s'appelle « Viens Seigneur, car notre cœur est sans repos quand il demeure loin de toi ». Au retour, on continuera de se nourrir le cœur et l'âme en écoutant les réponses de notre invitée naturopathe Christine Angelard. À tout de suite.
Car notre cœur est sans repos, tant qu'il demeure loin de toi. Bien, Seigneur, car notre cœur est sans repos, tant qu'il demeure loin de toi. Je donne mon cœur ferme, et j'entends le Seigneur qui m'appelle.
Si tu m'ouvres
Vous êtes toujours à l'écoute de Foi et Turbulence sur les ondes de Radio VM, Catherine Aubin, au micro, en compagnie de Christine Angelard, naturopathe et auteur de nombreux ouvrages sur la santé physique et spirituelle. Alors, je voudrais qu'on continue sur ce avec quoi on s'est quitté tout à l'heure, à savoir l'amour, l'intériorité. Deux de vos ouvrages, Christine Angelard, sont consacrés à l'intériorité. Voyage en pays d'intériorité, c'est l'un des titres de vos ouvrages. Est-ce que le soin thérapeutique vous mène à ce voyage et nous mène à ce voyage et comment ?
Oui. C'est un accompagnement plus qu'un soin. Ce chemin que je fais avec les gens qui viennent me voir, quand il y a un moment dans la consultation où on va aller vers plus d'intériorité, où on va en parler, où je vais encourager les patients à le faire, cet accompagnement ouvre des portes, ouvre des fenêtres chez le patient, mais chez nous aussi. Parce que lorsqu'on accueille un patient, un sujet, on est dans l'ouverture des oreilles, dans l'ouverture des yeux et dans l'ouverture du cœur. Et on est devant quelqu'un, et surtout pas avec un protocole justement, ce qui nous tue à petit feu sont ces protocoles. On est devant quelqu'un qui a une problématique, donc on va essayer de comprendre quelque chose avec notre cerveau, ça c'est a priori vaut mieux. Et en même temps, il y a cette ouverture du cœur qui se fait. Je dirais presque automatiquement, en tout cas c'est notre vocation, c'est notre mission. Et donc moi ça me fait grandir aussi. Ça me fait grandir, ça me fait aussi parfois toucher mes limites. Parce que je ne peux pas tout, je ne suis pas toute puissante, loin de là. On chemine, c'est vraiment un accompagnement. On chemine ensemble avec le patient dans sa problématique physique, oui, mais quand on a allégé un petit peu la problématique physique et qu'on a fait un peu de ménage dans les émotions, c'est un vrai bonheur pour moi de parler spiritualité avec certains de mes patients. Je ne vous dis pas que je parle spiritualité avec tous mes patients.
Non.
Bien évidemment, ça fait grandir autant celui qui accompagne que l'accompagné. Oui. Parce que cette ouverture, justement, ça me fait grandir. Ça me fait moi aussi toucher ma dimension verticale. On a des états de grâce, si j'ose dire. Le mot est peut-être un peu fort. Mais lorsqu'on est dans cet accueil, dans cette ouverture, on est trois. Moi, j'ai l'habitude de dire, je l'ai écrit quelque part, je ne sais plus où, mais nous sommes trois dans une consultation. Il y a le patient, le thérapeute, et la relation.
Et un catholique pourrait dire et l'Esprit Saint.
Et voilà. Et de la qualité, et c'est cette relation, de la qualité, de la puissance, de la force de cette relation, va dépendre l'efficacité du traitement. C'est un peu gros ce que je dis, mais je vous assure que c'est vrai. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. C'est beaucoup plus terre à terre. Mais c'est qu'il y a une confiance, il y a un lien qui s'établit. Oui. L'autre se sent accompagné. Moi, j'y vais avec tout mon cœur, avec ma connaissance, mais avec mon cœur et ma compréhension. Mm-hmm. Et c'est deux cœurs qui s'ouvrent en quelque sorte.
Oui.
Voilà. Donc forcément que ça nous fait du bien. Et souvent, enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois, en tout cas en consultation, de m'entendre dire, c'est-à-dire je sors des phrases que vraiment je ne pensais pas les dire une minute et demie avant.
Oui.
Et ça tombe juste. Ça tombe juste parce qu'en fait, on s'est mis à l'unisson. Il y a une espèce d'accordance, là aussi, d'accord, tout simplement. Il y a simplement un accord entre l'autre dans sa qualité d'être. Et moi, qui le matin me suis levée avec un bouton sur le nez, ou pas contente parce que j'ai 5 kilos de trop, ou les cheveux mal coiffés, quand je rentre dans cette relation, j'oublie ça. Et je reprends ma dimension verticale, vous voyez. Donc ça me fait un bien fou, en fait.
Oui.
Donc oui.
Et en lisant votre site, que je conseille vivement aux auditeurs d'aller regarder votre site, donc c'est Christine Angelard et ils pourront regarder, toujours dans cette même ligne dont vous parlez, Christine Angelard, à propos du cœur et du cerveau. Vous écrivez « Les sentiments de paix et d'amour ressentis par le sujet sont guérissants pour l'individu et sont aussi capables d'émettre des vibrations électromagnétiques positives 5000 fois plus puissantes que les ondes électromagnétiques du cerveau. »
Exactement.
Alors, est-ce qu'on peut faire un lien avec la prière, avec par exemple cette citation de Saint Paul « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Esprit-Saint ?»
Absolument. Et alors, ce que vous avez cité, là, les ondes électromagnétiques du cœur 5000 fois plus puissantes, c'est pas une hypothèse, c'est une certitude, c'est évidemment pas moi qui l'ai trouvé. C'est tous les travaux qui ont été faits, notamment à l'Institut HeartMath en Californie, sur la cohérence cardiaque et sur l'importance des liens entre cœur et cerveau. Parce que jusqu'à il y a à peu près une vingtaine d'années, on s'intéressait surtout aux connexions entre cerveau et cœur. Là, on s'est rendu compte que le cœur avait la prévalence sur le cerveau, et notamment dans cette capacité à émettre des ondes beaucoup plus lointaines. Donc oui, cette ouverture du cœur rayonne. De toute façon, on le voit très bien, on le dit bien que quelqu'un rayonne ou donc c'est quelque chose qui est mesurable, qui a été mesuré, et on s'est aperçu que justement, en privilégiant les attitudes de prière, de méditation, moi j'appelle ça de voyage en pays d'intériorité, pour, si j'ose dire, toucher plus de personnes, oui, on a un impact sur la physiologie et sur l'émotionnel et sur le spirituel. Mais c'est quelque chose qui est évident, oui. Et bien sûr que la phrase de Saint Paul, pour les chrétiens, elle est totalement en accord avec cette constatation, je dirais, neurophysiologique, oui.
Et vous écrivez encore, toujours au même sujet, des études faites dans des monastères de par le monde et dans les cultures religieuses différentes ont toutes montré une meilleure santé immunologique et nerveuse chez les moines, moniales et autres adeptes de ces pratiques de silence et d'intériorité.
Ah mais c'est une évidence, enfin maintenant c'est une évidence, mais vous savez, c'est l'expérience qu'avait fait le professeur Emmons en psychologie positive aux États-Unis, parce que la psychologie positive, justement, c'est cette branche de la psychologie où les psychiatres se sont dit, bon, on va quand même voir un petit peu ce qui se passe aussi chez les gens qui vont bien. Parce qu'avant, les psychiatres s'occupaient surtout des gens qui n'allaient pas bien, et là on s'est dit, qu'est-ce qui se passe chez les gens qui vont bien? Enfin bref, il y a eu beaucoup d'études de fait, et le professeur Emmons s'est dit, il faut faire quand même une étude randomisée, scientifique, il faut faire quelque chose de sérieux. Et c'est ce qu'il a fait, et il est allé donc faire son expérience dans le Minnesota, dans un monastère occupé par des sœurs, et où on s'est rendu compte, et ces sœurs devaient écrire une lettre, je dirais, je n'appelle pas une lettre de motivation, mais une lettre à l'entrée dans la congrégation dans laquelle elles entraient, une lettre à 40 ans, au milieu de leur vie, et une lettre passée 70 ans, pour parler un petit peu de leur vécu. Et à côté, donc, il y avait toute cette documentation qui était disponible, et puis à côté, il y avait bien évidemment les dossiers médicaux de tous ces gens-là. Et on s'est rendu compte que les personnes qui utilisaient le plus souvent le mot gratitude, le mot merci, avaient une meilleure santé que les autres, au point qu'il y avait une différence sur l'espérance de vie. Donc, toutes ces études qui ont été faites de façon scientifique et pas spirituelle, c'est ça qui est intéressant, c'est que je dis que la science apporte de l'eau au moulin de la spiritualité. Toutes ces études qui ont été faites par des psychiatres, par des neurologues, montrent que l'état de prière, l'état de méditation, améliore considérablement la santé des gens qui pratiquent, mais ont un impact aussi sur leur entourage et sur leur société. Et ça, je trouve qu'on vit une merveilleuse époque parce que la science apporte de l'eau au moulin de la foi et de la spiritualité. Oui, bien sûr.
Alors, pour continuer là-dessus, vous parlez dans votre site, et je vous pose la question, de la cohérence cardiaque, et vous donnez des conseils, des règles aussi, à des invitations, on va dire, des propositions pour justement entrer dans cette cohérence cardiaque qui, comme vous le dites depuis le début, est beaucoup plus qu'une cohérence cardiaque physiologique. Parce que, vous l'avez dit, et on le redit maintenant, cœur et cerveau battent à l'unisson et nous permettent d'entrer dans un ajustement. Vous avez parlé tout à l'heure d'adaptation. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu les conseils que vous donnez sur cette cohérence cardiaque ?
La cohérence cardiaque, en fait, c'est l'explication scientifique des 5 premières minutes de prière, de méditation ou de voyage en pays d'intériorité. Puisque justement, on s'est interrogé il y a une vingtaine d'années en se disant pourquoi les gens qui prient sont en meilleure santé que les autres. Et donc, il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que si je respire à un certain rythme, je vais équilibrer cœur et poumons et surtout tout mon système neurovégétatif et je vais mettre un équilibre dans mes sécrétions hormonales, mon adrénaline va monter et mon cortisol va baisser puisque c'est le cortisol qui nous rend malade. Je vais équilibrer donc ma réponse au stress, je vais équilibrer ma réponse cardiovasculaire et je vais faire du bien à mes émotions. Donc, les études portaient sur des gens en prière. Bien évidemment, quand on veut transférer ça à la population à large, on a essayé de trouver une technique plus scientifique, et donc on parle de cohérence cardiaque, puisque lorsqu'on se met dans cet état de respiration à 6 respirations par minute, automatiquement, il va y avoir une onde sinusoïdale, il y a eu des ondes de l'électrocardiogramme vont prendre une forme sinusoïdale. L'onde, on mesure un pic de l'électrocardiogramme qui s'appelle R, et donc on va mesurer R, R1, R2, R3, R4 sur 10 minutes, et on regarde quelle courbe ça fait. Là, en discutant, si on nous met des électrodes, nos R, R1, R2, R3, R5, R6, là, vont avoir un tracé totalement anarchique. Si je me mets en cohérence cardiaque, ce R, R1, R2, R3 suit une courbe sinusoïdale, et c'est ça la cohérence. Donc, suit cette courbe sinusoïdale, et là, je vais véritablement équilibrer dans un premier temps ma physiologie. Donc la cohérence cardiaque, on l'a sortie d'une démarche spirituelle, on a pris le mécanisme physiologique des 5 premières minutes d'une prière, d'une méditation, d'une intériorisation, d'une contemplation, et on a expliqué aux gens que de pratiquer cette cohérence cardiaque 3 fois par jour, pendant 5 minutes, à 6 respirations par minute. David Servan-Schreiber a été celui qui nous a formés en France, celui qui nous a enseigné tout ça. Si je fais ça 3 fois par jour, ma santé physique ira mieux, déjà. Et c'est comme ça qu'on l'enseigne. Et il y a tous les autres bénéfices à côté. Voilà.
Et c'est ce que vous dites, justement, vous écrivez sur votre site, vous dites que les bénéfices vont durer pendant 5 heures, alors qu'après une colère, 8 heures plus tard, nos paramètres de l'immunité sont encore abaissés. Alors me vient cette question, Christine Angelard, colère, tristesse, peur, et en ce moment, c'est quand même un moment de grande anxiété au niveau mondial que nous vivons, donc colère, tristesse, peur, anxiété, réduisent notre santé physique, et comment ? Pourquoi ?
Parce que justement, notre cortisol monte, pour parler un petit peu technique, nous nous mettons en surstress, donc nous épuisons nos surrénales, et si nous épuisons nos surrénales, notre capacité à nous défendre diminue. Et c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus je suis dans la peur et la panique, plus je vais m'épuiser vite et plus je me coupe de l'énergie sacrée. Ça, c'est la loi des cinq éléments en médecine chinoise. C'est quelque chose de visuel. Donc à la radio, c'est pas évident, mais j'en parle dans tous mes livres.
Oui.
Il faut essayer de. Alors c'est très joli de dire ça, hein, mais comment je sors de la peur?
Oui.
Déjà, j'essaie de pas trop y rentrer. Enfin, c'est un peu. C'est pas un jeu de mots là, hein. Mais
non.
J'essaie de ne pas l'alimenter.
Oui.
En n'écoutant pas 24 heures sur 24 les chaînes de télévision ou de radio.
Oui.
Je prends les nouvelles une fois par jour, ça suffit largement. Mmh. Voilà. Ensuite, je ne vais pas en rajouter avec mon mental. Mmh. Parce que ça, on est très fort pour en rajouter. On est tous très forts pour en rajouter avec notre mental.
Oui.
Et donc, c'est là où cet outil de cohérence cardiaque pour les non-priants, les non-croyants,
oui,
on va dire.
Oui.
Parce qu'en face de nous, nous n'avons pas forcément des gens qui prient. Mais l'exercice, justement, technique, on va dire, des 5 minutes 3 fois par jour, va permettre au sujet de moins fragiliser ses reins, ses surrénales et donc son système immunitaire. Donc, va lui permettre d'aller mieux. Voilà. Après, je vais conseiller aux gens d'aller s'oxygéner. Alors, je sais qu'il y a le couvre-feu, tout. Enfin, de toute façon, en janvier, on va pas sortir à 9h du soir pour s'oxygéner, mais de prendre l'air, de prendre une marche, comme on dit au Québec, d'aller marcher. Voilà. Parce que la marche aussi, c'est David Servan-Schreiber qui disait troquer le Prozac contre les Adidas. Autrement dit, contre les chaussures de sport. Hein.
Oui.
Donc, d'aller s'oxygéner, parce que le cerveau a besoin d'oxygène, et que quand je vais marcher pendant une heure, au retour, les problèmes seront les mêmes, mais j'aurai une autre vision. J'aurai une vision un peu plus éclairée. Voilà. Et puis, ce que je peux conseiller aussi aux gens, bah, évidemment, c'est de prendre soin de leur système immunitaire en mangeant bien, en dormant suffisamment, mais en arrêtant de nourrir le hamster, c'est-à-dire le mental.
Oui.
Et qu'est-ce qui se passe s'il arrive ça? Et si on me demande de faire ci, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et est-ce que ça, c'est... Et malheureusement, nos chaînes de télévision et de radio nous disent tous les quarts d'heure, pratiquement, ce qui se passe en négatif dans nos villes et sur la planète. Donc, sortir de son bocal aussi. Ce que je disais ce matin, j'ai vu une jeune fille, une jeune étudiante, et c'est dur pour les jeunes, hein, qui sont coupés de leur contact, qui ne peuvent pas aller prendre un café avec les copains, etc. etc. Il n'y a pas que les jeunes d'ailleurs. Mais... Et je lui disais, profites-en pour sortir de ton bocal, c'est une expression un peu triviale, mais qui veut dire, intéresse-toi à autre chose. Bon, elle étudie en sciences, et il y en a de quoi faire. Mais... regarde autre chose, et élargis ton regard. On a du temps pour lire, là, par la force des choses, hein, puisqu'on ne peut pas aller au cinéma, on peut sortir nulle part. Donc nourris-toi de beaux textes, de belles lectures. Et pour ceux qui pratiquent la prière et la méditation, bah, c'est justement aussi une occasion de creuser cette voie-là qui nous permet de tenir debout et qui nourrit l'espérance. Voilà. Parce que ce qui est vicieux actuellement, c'est que toute espérance est cisaillée à longueur de journée.
Ce qui est très étonnant, Christine Angelard, quand on vous écoute, vous venez de parler de l'espérance, mais depuis le début, vous nous invitez à élargir notre vision, agrandir notre regard, comme si la cohérence et même l'approfondissement de notre spiritualité, qu'elle soit chrétienne ou autre, dépend de ce déploiement à la fois du regard, mais aussi de notre santé physique et spirituelle.
Oui, je crois. Parce que on a tous la tête sur le guidon, comme on dit, on regarde à court terme. Mais vous savez, ça, j'en parlais dans le bouquin sur la gratitude, on a tous vécu des moments dans nos vies qui n'étaient pas faciles, voire extrêmement violents, qui, quelques semaines, quelques mois plus tard, nous ont propulsés du point A, on est passé au point Z, et arrivé au point Z, tout d'un coup, on voit une voie auquel on n'avait absolument pas pensé, on prend une autre route, et cette autre route, ben, elle va nous changer la vie. Sauf que pour arriver au point Z, on s'est pris un grand coup de pied douloureux quelque part, et donc on est tous arrêtés, et donc c'est cette espèce d'ouverture et d'élargissement du regard, ça je suis sûre que de la conscience, de nos connaissances, on ne sait pas tout, et de le dire aux patients, écoutez, moi je vais vous proposer ça, ça et ça, mais regardez aussi avec votre médecin, et puis on va voir comment ça fonctionne, etc. Et je n'ai pas la vérité absolue, et personne ne l'a. Et quand on parle comme ça au patient, on parle juste. Et donc la relation se crée et on peut cheminer ensemble. C'est le patient qui va se guérir. Donc cette ouverture et cette altitude aussi, il y a quelque chose de l'ordre de la hauteur. Prendre de la hauteur, ça va nous... Et on a besoin les uns des autres. Parce que là, aujourd'hui, je vous parle comme ça au micro, au téléphone. Mais le jour où c'est moi qui vais être fragile, je vais avoir besoin qu'on m'aide également. Parce qu'on est tous interreliés, on a tous besoin les uns des autres. Et on a tous besoin de maintenir cette flamme allumée avec une vision, une compréhension à élargir. Parce que de rester le nez sur le guidon, de regarder juste ce qui va se passer dans 3 semaines, ben non, c'est pas la bonne solution. C'est... En tout cas, on perd beaucoup. Donc oui, c'est une vision, on va dire, intellectuelle peut-être, dans ma démarche professionnelle, mais c'est une attitude aussi spirituelle, de voir de plus haut ce qui nous arrive et d'accepter. En fait, ça parle d'acceptation, tout ça, hein, d'accueillir, en tout cas d'accueil. Peut-être pas acceptation, mais d'accueil.
Vous avez parlé d'accueil, vous avez parlé aussi de curiosité tout à l'heure, vous nous avez dit combien vous étiez curieuse. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'avec l'accueil, la curiosité, l'ouverture, on sent combien vous êtes toujours en marche vers d'autres ouvertures? Est-ce qu'on peut dire qu'un autre pilier de votre mission, parce qu'on sent que à travers tout ce que vous dites, il y a une mission intérieure, celle du thérapeute. Est-ce qu'on peut dire que la gratitude est aussi pour vous, Christine Angelard, naturopathe, un outil de croissance, et aussi pour nous? En quoi la gratitude est-elle croissance, est-elle outil de croissance?
Oui, c'est un outil, mais c'est un fruit. Hein. C'est-à-dire que quand on chemine comme ça, il y a un moment, quand on traverse des épreuves, vous savez, la gratitude, j'ai effectivement écrit un bouquin là-dessus, mais c'est les patients ou les amis ou les personnes qui ont vécu des fois, parfois, le plus souvent, des choses extrêmement dures, qui sont les plus douées pour la gratitude. Parce qu'elles prennent la mesure, la portée de l'éphémère de la vie et de l'importance de l'instant présent. Donc la gratitude va nous ouvrir le cœur comme outil, effectivement, c'est le résultat des recherches en psychologie positive, tous ces cahiers de gratitude, et j'en parle aussi dans mon bouquin, ces exercices pour pratiquer la gratitude comme on pratique un sport presque. Et j'aime pas trop cette image parce que c'est pas ça, mais de s'efforcer tous les jours à remercier la vie pour ce qu'elle me donne, c'est évidemment quelque chose qui va aussi faire du bien à mon corps. C'est exactement la même chose que la prière, ça ouvre l'énergie du cœur, donc ça a un impact sur mon système immunitaire, ma capacité à me défendre, mon système cardiovasculaire, etc.
C'est très étonnant ce que vous dites, Christine Angelard, parce que quand on connaît la Bible, et vous la connaissez aussi, le Saint Paul et le Christ dans l'Évangile répètent quand même très souvent « Vivez dans l'action de grâce, rendez grâce en toute chose ». C'est bien de cela dont il s'agit.
Tout à fait, tout à fait. Alors justement, on a été, moi je l'ai appris effectivement au catéchisme, etc. Et surtout mes parents, mon éducation. Mais de façon, je ne l'ai pas appris, ça m'a été transfusé, on va dire. Mon père et ma mère avaient ces capacités de rendre grâce et ils n'ont pas eu du tout des vies faciles, hein, loin de là. Donc cette capacité de rendre grâce, on nous l'a appris de façon spirituelle, familiale, mais ensuite ça se développe et plus on la pratique, plus on va sur cette parole, rendre grâce en permanence, parce que on voit l'éphémère de la vie, on voit l'importance du sourire, l'importance de l'eau qui coule quand on ouvre le robinet, et du coup, il y a quelque chose aussi qui a été démontré neurologiquement dans ces études aux États-Unis sur la psychologie positive, c'est que quand mon cerveau, quand nos neurones fonctionnent en positif, ils ne peuvent pas fonctionner sur une émotion négative. Autrement dit, j'ai beau vivre des choses difficiles, si j'ai cette habileté à reconnaître la chance que j'ai quand même, malgré tout, de vivre ceci ou cela, ou de pouvoir faire ceci ou cela, va, je dirais, apaiser quelque chose au niveau neurologique. Bien évidemment, au niveau spirituel, ça me fait monter sur un autre plan. et au niveau physique, je vais mieux me porter. Donc oui, cette gratitude, c'est à la fois un outil, mais je dirais c'est une fleur aussi, c'est un fruit. Parce qu'on recueille ça lorsqu'on est justement dans l'accueil, dans l'écoute, dans cette vision globale. Quand on a quelqu'un en face de nous et qu'on le voit dans sa globalité, dans qui il est profondément, mais c'est un cadeau de pouvoir cheminer avec lui. Donc c'est un outil et c'est aussi une bénédiction. Voilà, c'est un peu ça.
Oui. Et je suis sûre que nos auditeurs en ce moment sont en train de se dire, mais comment en ce moment être dans la gratitude avec tout ce qu'on est en train de vivre?
Oui. Déjà parce qu'on n'est pas à l'hôpital, enfin là, si on nous écoute, enfin peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent à l'hôpital, remarquez, mais en tout cas pas aux soins intensifs, ça c'est sûr que, bon, voilà, c'est pas facile ce qu'on traverse, c'est une épreuve et c'est une expérimentation aussi, si j'ose dire, mais comment être dans la gratitude pour les petites choses, pour la beauté de nos enfants ou de nos petits-enfants, pour le temps qui fait, pour la beauté de la neige, pour la gratitude, c'est pas youpi, j'ai gagné au loto, j'ai une super maison, 3 voitures et je m'en vais je sais pas où en vacances, c'est pas ça hein. La gratitude, c'est mon Dieu qu'il est beau cet enfant, que ce soit le mien ou pas le mien d'ailleurs. Mais évidemment les miens sont les plus beaux, c'est bien connu. Mais je plaisante hein, mais donc c'est pas facile d'être dans la gratitude, et c'est ce que j'explique aussi dans mon livre. Être dans la gratitude, c'est attention de ne pas être dans le déni de ma souffrance. Si je suis mal, je dois l'exprimer, cette souffrance. Oui, et c'est ce que je donne des outils dans le bouquin, mais je ne suis pas la seule. Donc, aller chercher, se faire aider. Mmh. Je ne suis pas bien, je ne vais pas bien, ce qu'a fait cette jeune fille quand elle est venue me voir ce matin. Mmh. Donc oui, je vais vous aider, je vais vous accompagner. Ce faisant, une fois qu'on... Et c'est important, et c'est capital. Mmh. C'est-à-dire de reconnaître que oui, je ne suis pas très tranquille, oui, j'ai des inquiétudes, et qu'est-ce que je fais avec ça? Les poser sur la table. Il y avait une chanson de Gilbert Bécaud, très ancienne, qui disait, ami, tu as des soucis, c'est de ceci, d'où cela, viens, pose-les là, sur la table. Mmh. Voilà, posons nos soucis. Donc il faut trouver la personne, que ce soit un prêtre, une sœur, un médecin, un psychiatre, un thérapeute, pour poser nos soucis. Et une fois qu'on s'est déchargé en partie, une partie de ce poids, là, on va, comme par hasard, avoir les yeux qui s'ouvrent, hein. Les lunettes vont s'éclairer, et là, on va voir qu'on a de la chance, justement, d'avoir cet ami, ce prêtre, cette sœur, ce thérapeute qui nous aide. On va avoir la chance de se dire, finalement, je suis pas à l'hôpital, et puis ça va bien, hein. Vous voyez, il faut faire attention parce qu'il y a une tendance de psychologie positive qui est un petit peu comme on le disait dans les années 70, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Oui. C'est pas ça la gratitude, hein, c'est pas ça du tout.
Non.
C'est je suis mal. Alors d'abord, je suis bien, alors merci mon Dieu, on le dit, de toute façon, on n'arrête pas de dire merci mon Dieu. Quand tout va bien, ne pas oublier de dire merci.
Oui.
Bon, ça c'est. Moi j'ai peut-être appris au catéchisme, mais je l'ai appris de mes parents, c'est une forme d'éducation. Mmh. Il s'est peut-être un peu perdu avec les enfants rois. Mais bon, ça c'est une autre question.
Mais c'est peut-être le moment de retrouver, justement, vous parlez d'enfant roi, de retrouver l'empereur qui est le cœur. C'est bien vous disiez.
Tout à fait, tout à fait. Donc d'abord reconnaître quand ça va bien, et lorsque ça va pas, aller enlever ces mauvaises herbes qui m'empêchent de voir la lumière, en fait. Hein, voilà. Et c'est pas... on a besoin tous les uns des autres là-dessus. Hein, on a tous besoin les uns des autres pour nous aider à enlever cette ombre. Mais ce qui est certain, mais de façon... Alors c'est beau, c'est certain de façon spirituelle pour les gens qui ont une spiritualité vivante, mais c'est certain sur le plan neurologique, scientifique, que cet état d'esprit va me permettre de mieux traverser ce que j'ai à traverser. Voilà.
Et on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, nous avons, entre guillemets, un homme joie à l'intérieur de nous.
Ah oui, c'est l'expression de Christian Bobin, l'homme joie. Et oui, écoutez, vous le dites vous-même dans vos écrits, hein, ce qui est originel, ce n'est pas le péché, c'est la joie.
Oui.
Et que j'étais heureuse d'entendre ça de votre bouche et de le lire, parce que ça fait du bien quand on rencontre un écho, parce que cette joie, elle est dans le regard du bébé, de l'enfant, elle est là avant tout, la joie. Et on l'a malheureusement souvent camouflée, perdue, étouffée, etc. Et cette joie initiale, cet homme joie, ou cette femme joie, cet humain joie, on l'a à l'intérieur, c'est cette parcelle, l'énergie céleste qui prend chacun de nous. Et c'est vrai qu'on n'est pas égaux. Il y a des gens qui ont eu tellement qui ont vécu des choses tellement difficiles, qui ont eu tellement de malheurs, que parfois, parfois c'est complètement étouffé sous des couches et des couches, et c'est là où il va falloir les aider, ces gens-là. Mais en même temps, j'ai pu voir dans ma pratique, et vous aussi sûrement, hein, Catherine Aubin, des gens qui ont vécu mais des horreurs et qui n'ont pas perdu cette lumière au fond des yeux. Donc c'est fascinant quand même. Hein, donc, et peut-être que ce que nous vivons est une occasion de creuser pour retrouver cette joie-là, dans les petites choses. Dans le repas qui nous réunit, qui va nous réunir ce soir, dans le... On est toujours en train de... Les Français sont encore sont plus forts que les Québécois pour ça. On est toujours en train de se plaindre du verre à moitié vide. Ben non, s'il y a déjà un verre et qu'il est à moitié vide, c'est qu'il est aussi à moitié plein.
Je voudrais laisser aussi la parole à quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous prenez comme l'exemple suprême pour tous les thérapeutes, Hildegarde Bingen.
Ah oui.
Qui, pour elle, faisait le lien entre la matière corporelle, l'émotion et la spiritualité. Elle disait « L'âme, la viridité de la chair, c'est elle qui assure la croissance et le développement du corps. De même, l'humidité fait fructifier la terre. » Racontez-nous.
Ah ben, le garde de Bingen, moi, c'est mon idole. Enfin, c'est un peu, le mot est mal choisi, mais c'est une référence. C'est le garde de Bingen au XIIe siècle, cette moniale, qui a très tôt, justement, pour elle, la viridité de la chair, la santé, l'alimentation. Elle a écrit des choses extraordinaires qui sont toujours d'actualité. Au XIIe siècle, en Allemagne. La joie. Elle faisait danser ses moniales. Elle écrivait de la musique sous la dictée spirituelle de l'Esprit Saint. Alors elle était en ligne directe avec l'Esprit Saint, ce qui est quand même extraordinaire. Et tout en ayant, moi, pourquoi j'aime énormément cette sainte, je crois qu'elle a fini par être sanctifiée. Enfin, je sais plus.
Elle est docteur de l'Église.
Elle est docteur de l'Église. Voilà. Enfin, en tout cas, ce qui m'a vraiment enthousiasmée chez cette femme, c'est que c'est une femme complètement éclairée de l'Esprit Saint depuis son plus jeune âge, qui a eu donc qui a été moniale et abbesse d'un grand monastère en Allemagne au XIIe siècle, mais qui s'est occupée de la nourriture, des émotions, et qui n'était pas du tout en extase à intervalles réguliers, mais qui était totalement ancrée dans la terre, dans la matière, qui avait les pieds sur terre, la tête au ciel et le cœur ouvert à l'Esprit Saint. Là,
Merci.
Et qu'une femme au XIIe siècle arrive à nous donner des vérités qui sont toujours d'actualité maintenant. On n'a rien à... Tout a été dit. Hein.
Exactement, et à prendre
tout
l'exemple.
A été dit.
Christine Angelard, un grand merci pour votre passage en studio aujourd'hui à travers le téléphone. Je rappelle que vous êtes naturopathe, conférencière, auteur de nombreux ouvrages dont « La médecine qui soigne, l'amour guérit »,« Voyage au pays d'intériorité »,« Va vers toi-même »,« Les essences ciel pour l'âme et le corps » et enfin ce livre dont vous nous avez souvent donné le titre « La gratitude qui guérit ». Catherine Aubin avec vous, qui vous remercie d'avoir été à l'écoute et vous invite à rester à l'antenne de Radio FBM. À bientôt à chacun et à chacune. Merci à Christine Angelard et bonne journée.
Merci à vous Catherine, merci Radio FBM. Merci, au revoir.
Au revoir.